L'Éden de Satan numéro 7. Un quintuple ministère légitime première partie. 3 octobre 2021. Pasteur Brian Kozurek. L'Éden de Satan 29 août 1965 p. 3. J'essayais de me rattraper aujourd'hui sur certains de mes entretiens ce matin et cet après-midi. J'en ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et je pense, qui a une fois parlé à Moïse, disant, la charge Esther vraiment trop lourde pour toi. Alors, nous avons plusieurs frères ici, qui peuvent s'occuper de vos problèmes. Et chacun d'eux, a été légitime, et il y a de bonnes choses dont il faut vraiment s'occuper. Je vous recommande donc notre pasteur, ou frère Mann, et ces autres ministres-ci, qui ont la même foi que nous. Vous pouvez aller les voir. Ils vous diront exactement ce que vous devez faire. Certains, ce sont leurs enfants, des mariages mixtes, ou des choses qui n'y marchent pas. Ces hommes peuvent vous aider autant que n'importe qui d'autre, car ce sont des serviteurs de Christ. Allez les voir. Et je suis sûr qu'ils vous apporteront de l'aide dont vous avez besoin. Je n'y saurais pas m'occuper de toutes les demandes. Il y en a tellement, partout où on va. La pile Néhémie fait qu'augmenter, voyez-vous. Et on voudrait bien s'occuper de tous, seulement ce n'est pas possible. Mais je n'ai mis cesse de prier que Dieu, d'une manière ou d'une autre, arrange tout ça pour vous. Maintenant, cette situation Esther arrivée pendant le premier exode, quand Moïse était inondé par les besoins venant des gens et il voulait son avis, ou son jugement sur des situations qui étaient suscitées, et le beau-père de Moïse vit ce grand homme de Dieu être si inondé qu'il lui a proposé qu'il choisisse des anciens pour s'occuper des besoins quotidiens des gens. Ainsi Moïse pouvait s'occuper lui-même de besoins plus grands des gens, en général. Exode 18, 12 Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse, en présence de Dieu. 13 Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. 14 Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi? Depuis le matin jusqu'au soir? » 15 Moïse répondit à son beau-père, « Sestère que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. 16 Quand ils ont quelque affaire, ils, viennent à moi. Je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. 17 Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'estère pas bien. 18 Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui estère avec toi. Car la chose estère au-dessus de tes forces, tu n'es mis pourras pas y suffire seul. 19 Maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. 20 Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, et ce qu'ils doivent faire. 21 Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. 22 Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, et qu'ils la portent avec toi. 23 Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. 24 Moïse écouta la voix de son beau-père, et fit tout ce qu'il avait dit. 25 Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. 26 Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles, et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. 27 Moïse laissa partir son beau-père, et Jéthro s'en alla dans son pays. J'aimerais prendre pour notre étude de ce matin, cette pensée que frère Branham place notre pensée, concernant ces hommes de Dieu, que Dieu a placés ici dans un but. Il a dit comme Moïse, « Je n'ai émis peut répondre aux questions de tous, il y en a tellement et elles continuent à devenir nombreuses. Ainsi si vous voulez de l'aide, allez auprès de l'un de ces hommes de Dieu, qui ont prouvé être légitimes. » Et c'était la clé. Et quel est notre absolu? Qu'un homme soit légitime ou non, le fait est qu'il reste avec la parole. Qu'importe. Et il dit, Dieu a placé ces hommes ici pour être honnête pour vous. Maintenant, nous savons que la mariologie est fausse, et nous savons que prier les saints, qui sont morts, est faux. C'est rappelé du spiritualisme ou du spiritisme. Dans sa prédication, Allez, réveillez Jésus 30 novembre 1963 SP, 74. Frère Branham nous parle d'une conversation avec un prêtre catholique, et parlant du prêtre, il dit, Dieu est dans son église. J'ai dit, Dieu est sa parole. Ainsi, il dit, et vous dites que c'est la forme la plus élevée du spiritualisme que vous connaissez? Il a dit, comment pouvez-vous déclarer cela? J'ai répondu, tout ce qui intercède avec les morts, c'est du spiritisme. Toutes ces femmes marchent, descendant la rue là-bas, portant des pierres et des choses, faisant des pénitences à une femme morte, sa bien-aimée morte et faisant d'elle une sainte, parce qu'elle a été canonisée par l'Église. J'ai dit, c'est du spiritisme. Il a dit, vous priez Jésus, et il est mort. J'ai dit, mais il est ressuscité. Monsieur, c'est juste. C'est exact. Oh, combien les choses. Voyez, il est ressuscité, j'ai dit, j'espère que je n'ai pas blessé vos sentiments, il a dit, non, pas de problème, j'ai dit, très bien voyez, maintenant, je veux que vous gardiez cette pensée, où le prêtre catholique dit, Dieu est dans son église, parce que nous allons détruire cette pensée, ce soir pendant notre service de communion, parce que cette doctrine catholique est présentement enseignée dans ce message. Ainsi, nous allons vous montrer, ce soir, combien c'est faux. Encore dans sa prédication, l'âge de l'église de Pergame 7 décembre 1960 p. 78. Frère Branham dit, oh! Quand il place un dignitaire là-haut comme un dieu, et j'aimerais ajouter qu'un dignitaire est une personne qui tient un office élevé, et vous n'aimez pouvez pas avoir un office plus élevé dans l'Église que celui d'un prophète parole. Ainsi un quintuple ministère sous ce prophète. Mais remarquez qu'il parle de ce que les gens font à cet homme qui est placé dans cet office. Il a dit, oh, quand il place un dignitaire là-haut comme un dieu, et que celui-ci tienne des cérémonies appelées. 150 et remarquez que les païens adressaient des prières à leurs ancêtres morts. Et l'église protestante se lève et dit, je crois à la sainte église catholique romaine, et à la communion des saints. Voilez-vous le visage, vous méthodistes, presbytériens et luthériens. Tout ce qui fait intervenir les morts est du spiritisme. Certainement. Mais maintenant, les protestants Néhémie peuvent plus se moquer des catholiques. Ils font la même chose. Ils font une confession qui montre à suffisance qu'ils croient à la même chose. Ils rentrent tout droit dans l'église catholique par leur baptême d'eau. Rejetant et ridiculisant ceux qui essaient de faire la chose correctement. Quand ils vont dans une église et voient des gens crier sous la puissance de Dieu, ils restent dehors pour se moquer. Tout cela. Et dans sa prédication, Dieu tient sa parole 15 janvier 1957 p. 78. Frère Branham nous dit, « Maintenant, voici comment nous nous y prenons. Ce n'est pas pour plaisanter maintenant. Je n'ai émis. Ceci n'est pas un endroit où faire des plaisanteries. Il y a trop d'évangélisation à la Hollywood aujourd'hui. Trop de plaisanteries et de comportements bizarres à la chair. Écoutez. Ça. C'est une chose sincère. Et remarquez. Et une chose sacrée. Remarquez. Que c'est stérile passé. De même que nous écoutons. Si nous ramenions cela par exemple à aujourd'hui, qu'en serait-il si nous prenions l'église catholique? Eh bien, nous devrions lire acte 2 comme suit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, faisant la confession, et ils jouaient adressaient des prières au saint bienheureux. Ça, c'est une forme élevée de spiritisme. Naturellement, vous voyez, parce qu'il n'y a que les spirites qui peuvent adresser une prière aux morts. Exact. Ainsi, vous voyez qu'il y a beaucoup des choses qui n'émis sont simplement pas justes, qui sont propagées au nom de la chrétienté, qui sont païennes, à partir de leurs racines. Semblable à ce qui s'est passé du temps de Daniel, possédant les portes de l'ennemi 22 mars 1964 p. 25. Prenons les enfants hébreux, parce qu'ils étaient restés fidèles et n'acceptaient pas l'adoration de statues. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue que le roi de cette nation avait faite. Elle était faite aussi à l'image d'un homme saint, la statue de Daniel. 91 Cela montrait que la race des gentils avait été introduite sous une mauvaise facette. Celle de l'adoration de la statue d'un homme saint. Cela se termine de la même façon, lorsque les gens seront forcés à adorer les statues des gens. Cela arrive par la révélation concernant Daniel qui était capable d'interpréter la parole qui était écrite par une main sur la muraille. C'est de cette manière-là que cela a commencé. Et c'est de cette manière-là que cela s'achève, de la même manière, par la statue des gentils. 92 Remarquez, ils avaient refusé de l'adorer. Et qu'ont-ils fait? Ils étaient la postérité d'Abraham qui était restée fidèle à la parole. Et ils ont possédé la porte de l'ennemi, du feu. Ils l'ont possédée. Eh bien, la parole de Dieu est vraie. Maintenant, frères et sœurs, je pense que nous avons abordé un sujet chaud ce vieux camp, et nous en parlerons aussi, ce soir. Parce que les deux sont très proches, la croyance selon laquelle la plénitude de la divinité était dans un homme saint en cette heure, comme c'était dans son fils Jésus. Ces deux fausses doctrines ont pollué ce message, et vous n'aimez vous imaginerez pas, combien des gens croient à si de choses. Encore dans sa prédication, les investissements 16 novembre 1963 BP, 56. Frère Branham dit, les enfants hébreux avaient fait un investissement en Dieu, qu'il n'aimé briserait pas ses commandements, peu importe que la statue soit celle de leur saint frère Daniel. En effet, je crois que la statue était celle de Daniel, parce qu'il était le dieu de Belshazzar, et nous voyons qu'on avait fait une statue à l'image de ce saint homme. Peu importe combien saint était l'homme, il n'aimait et devait pas se prosterner devant une quelconque espèce de statue, peu importe à l'image de qui la statue était faite. Le monde des gentils a commencé avec l'adoration d'une sainte statue, Il va se terminer de la même façon, et vous voyez le système faire cela aujourd'hui. Donc, les enfants hébreux Néhémie voulaient pas se prosterner devant une statue, et vous voyez que les dividendes tirés de leur investissement, c'était que leur vie avait été épargnée. Remarquez ces déclarations ici. Peu importe combien saint était l'homme, il ne devait pas se prosterner devant une quelconque espèce de statue. Peu importe à l'image de qui la statue était faite, maintenant, pourquoi pensez-vous qu'ils ont adopté cette attitude contre l'adoration de la statue de Daniel? Il était le prophète de Dieu pour cette heure. Est-ce juste? Je vous dirai pourquoi. Parce que le premier commandement que Dieu a donné au peuple était « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Mais vous savez, nous avons des gens qui prétendent être des chrétiens et qui prétendent croire que William Branham était prophète messager de Dieu pour le temps de la fin, mais ils vont plus loin et essaient de faire de lui Dieu pour les gens, quand le premier commandement de Dieu interdit de le faire. Adorez Dieu et lui seul. Et souvenez-vous que adorer vient de deux mots, valeur, vert, et qualité, ship. Et si vous avez une opinion trop élevée du prophète de Dieu, vous brisez les paroles de Dieu. Et dans sa prédication, l'écriture sur la muraille de septembre 1956 p. 36. Frère Branham dit, « Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer, aussitôt que le roi avait eu cette vision et qu'il a compris cela, il a obligé chaque personne dans son royaume, dans son domaine, à adorer cette image. Il a fait une image. Et les érudits croient, et je pense effectivement qu'une personne remplie de l'esprit verrait que cela. Il adorait Daniel. C'est ce qu'il a fait. Il a fait une statue à l'image de Daniel. Et il a appelé cela Beltzkessar. Il a appelé Daniel, Beltzkessar, du nom de son Dieu. Et il a fait une image et il a obligé chaque personne à adorer cette image-là. J'aimerais vous faire remarquer que le commencement des gentils, quand Dieu a traité avec eux, ils s'étaient enflés dans leur cœur et ils ont obligé chaque homme à adorer l'image d'un saint homme. Et l'âge des gentils a commencé avec cela. Il se terminera de même. De même, un boycott de la marque de la bête obligera les gens à adorer des images et à faire des choses contrairement à l'enseignement que nous avons reçu de la parole de Dieu. Et, frère, ça sera si sournois, si malin que cela séduira si c'était possible même les élus. Vous feriez donc mieux d'être résolu ce soir et d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu, afin que vous puissiez discerner le vrai du faux lorsque cela aura été décrété. Alléluia. Maintenant, que font les globalistes? Quand ils poussent le vaccin, s'estèrent assez trompeurs avec le boycott pour tous ceux qui refuseront de se faire vacciner. Mais pour amener les gens dans les églises, soit d'adorer le saint homme ou pire que ça la plénitude de la divinité dans une épouse et n'aimez pas croire cela, vous êtes rejetés par ceux qui y croient. Vous voyez, Jésus a dit, Néhémie craignez pas ce qu'ils peuvent faire à ce corps, mais craignez ce qu'ils peuvent faire à l'âme. Et le boycott spirituel, est-ce que vous n'êtes pas admis dans leurs églises, si vous Néhémie croyez pas à leur fausse doctrine. Mais si vous, comme les enfants hébreux, refusez cet enseignement, vous serez rejeté, mais c'est glissant, comme ils le font et c'est ce qu'il a dit. Ce sera si glissant et sournois, au point de séduire les élus, si c'était possible. Parce qu'être en désaccord avec eux, semble comme si vous n'aimiez croyez pas que Dieu a utilisé l'homme. Vous dites que la plénitude de la divinité n'a pas habité dans le saint homme, et ils pensent que vous avez blasphémé ou pire. La marque de la bête 13 mai 1954 p. 56. Remarquez quand le roi Nebuchadnezzar, là-bas au commencement, quand l'âge des nations était inauguré. Voyons comment il a commencé. Et la façon dont cela a commencé. Vous verrez qu'il se terminera de la même manière. Nous savons qu'il y a un commencement du temps de la grâce pour les gentils, et une fin de ce temps. Est-ce vrai? L'assemblée dit, Amen. Tirendee 164 Eh bien, suivez. Quand le roi Nebuchadnezzar, quand Daniel a été envoyé là-bas, un prophète intelligent, alors que tous les autres juifs s'étaient en quelque sorte avilis et qu'ils pliaient devant les Romains, ou plutôt devant les Babyloniens. Mais il y avait là trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel, qui avaient résolu dans leur cœur de servir Dieu. Et puis, quand on avait jeté Shadrach et les autres dans, et Daniel était devenu un grand homme, tant aux yeux du roi Nebuchadnezzar, du roi Belshazzar que des autres. Quand Esther est devenu un grand homme, maintenant remarquez, le roi Nebuchadnezzar a fait une statue en or et l'a dressée dans un champ. Et il a ordonné que tout le monde se prosterne devant cette statue. 165 Avez-vous déjà remarqué comme, c'était innocent? Qui cette statue représentait-elle? C'était Daniel, la statue d'un homme. Et n'a-t-il pas dit, l'esprit des dieux? Païens? Et c'est-ce comme ça qu'ils sont aujourd'hui? Ils en ont trois ou quatre. L'esprit des dieux habite en lui, et ils ont fait une statue en l'honneur de Daniel. Et il a dit, tous ceux qui n'aimaient se prosterneront pas devant cette statue, seront jetés dans la fournaise ardente. Remarquez, Daniel n'Esther pas en scène à ce moment-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et quiconque n'aimait se prosternera pas devant cette statue sera déchiqueté, ou jeté dans la fosse au lion, ou brûlé dans la fournaise ardente, ou quelque chose comme ça, une punition. 166 Esther comme ça que la dispensation des gentils a commencé. Avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution forçant les gens à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une statue de lui adorée, et ainsi de suite. 167 Vous vous souvenez, dans le livre des martyrs de Fox, on tenait un crucifix devant eux, on leur attachait un bœuf à chaque bras, comme ça, et on disait, si vous n'aimez voulez pas renoncer, renoncez au protestantisme pour devenir catholique, baisez le crucifix. On faisait partir un bœuf dans une direction, et l'autre dans une autre, et on les écartelait alors. On les brûlait au bûcher. Ils ont tout fait. J'ai été aux vieilles catacombes. Je sais de quoi je parle. Et, vous voyez, ce cester vrai. Et il les repose là. Et remarquez comment ils ont traversé cette époque des martyrs, avant Martin Luther. Ainsi, nous devons être vigilants mes frères et sœurs pour résister à la tentation de faire d'un homme, Dieu, quiconque Dieu. Ainsi, quand j'entends de ces doctrines, où ils enseignent que la plénitude de la divinité habita dans William Branham, je veux m'en éloigner le plus possible que je le peux, et c'est même pire quand ils essaient de dire la même chose quant à l'épouse du Christ. Maintenant, je pouvais entrer dans cette fausse adoration et tirer quelques prédications à ce sujet, mais nous avons besoin de garder notre attention sur le quintuple ministère contre le faux quintuple ministère, et vous verrez pourquoi cet après-midi, nous nous attaquons à ces deux fausses doctrines, que nous voyons dans l'Église du temps de la fin. Maintenant, concentrons-nous sur le ministère de Dieu, regardons à ce que notre prophète, envoyé par Dieu, nous a enseigné dans sa prédication, se ranger du côté de Jésus 1er juin 1962 749-26. Maintenant, Je remarque de quelle manière les églises l'évangélisation a commencé à se répandre partout. Et alors nous prendrons par exemple le Paul, qui était devenu un grand missionnaire envoyé auprès de notre peuple. Nous découvrons qu'il allait partout où le Seigneur le conduisait, et il établissait une église. Et c'était une nouvelle fois. Les églises de ces jours-là, comme en Asie mineure, partout à travers l'Europe, elles et Néhémie ne croyaient pas ce message-là. Et après qu'il eut prêché le message et que plusieurs s'y furent convertis, il n'y avait alors personne. S'il avait laissé les gens dans cette condition, ils auraient erré pour retourner carrément à leur dieu païen, au judaïsme ou à quelque chose d'autre, parce que les gens n'auraient eu personne pour les enseigner, les convertis. Ils n'avaient pas d'endroit où aller. Ainsi Paul établissait églises à divers endroits du pays. 27 Dans chacune de ces églises, il laissait quelqu'un qui était juste, un homme qui était digne de confiance, un homme qui était reconnu comme pasteur, berger, ou un. Puis après, cette église devenait alors. D'autres petites églises naissaient d'elle. Des jeunes gens et des hommes âgés se levaient et formaient des églises à partir de celles-là. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque. Et puis c'est ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants, étaient appelés berger ou pasteur. Et alors ce groupe de petites églises revenait tout auprès de cet évêque. 28 Il en était de même au temps d'Irénée. Il a continué la même chose. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué la même chose. Cestère ce qu'ils avaient tout au long des âges. Et puis l'apôtre de l'église, l'apôtre qui était le Paul. Et lorsque Paul Esther partit, Jean prit la relève de l'église. Et lorsque Jean Esther partit, Polycarpe en a pris la relève. Lorsque Polycarpe Esther partit, Irénée en a pris la relève. Cela a continué jusqu'à Martin et ainsi de suite. Cela a tout simplement continué jusqu'au moment où l'Église catholique romaine a tout mis en pièces et les a brûlés et dispersés. Et le Gazam a mangé ceci et le Gélec a mangé cela. Ainsi de suite. A mangé cela jusqu'à ce que la chose a été réduite à une tige. 29 Bon. Mais Dieu a promis de restaurer de nouveau cette même chose. Je crois de tout mon cœur que nous vivons dans les derniers jours. Ce dont il parle, Esther que l'apôtre Paul était le prophète messager du premier âge de l'Église, il Esther celui à qui vint la colonne de feu. Et quand il a quitté la scène, l'apôtre Jean prit son œuvre à Éphèse. Non pas que Jean devint un messager prophète, mais disons simplement que Jean devint un administrateur de la parole de vie que Paul avait. Et ensuite, nous découvrons dans une étude sur l'Église primitive que Polycarpe était un disciple de Jean et qu'il était formé par Jean. Et ensuite quand Jean quitta la scène, Polycarpe maintenant devint l'homme avec la lumière et il avait une grande influence sur Martin et Martin eut une grande influence sur Colomba. Mais ensuite, l'Église catholique eut le contrôle des choses à travers leur christianisme politisé sous Constantin, et ainsi, l'Église est rentrée dans les ténèbres. Mais Dieu a promis de restaurer au temps de la fin, et ainsi, Dieu est descendu dans la forme de la colonne de feu, vers un prophète de nouveau. Et ainsi, nous voyons le modèle dans chaque âge, comme nous pouvons lire dans le livre des âges de l'Église, chapitre 4, l'âge de l'Église de Smyrne p. 140. Dans chaque âge, nous avons exactement le même modèle. Remarquez, qu'il a dit que dans chaque âge, nous avons le même modèle. Ainsi, quel est ce modèle dont il parle? Le Cant à rebours p. 70. Si vous faites attention, dans nos précédentes leçons sur les églises, il tenait cette étoile dans sa main, et nous avons vu que c'étaient les sept ministres des sept âges de l'Église. Chacun d'eux est parfaitement identifié alors que Dieu a entrepris son compte à rebours. Depuis son départ jusqu'au moment où il revient, il rassemble un peuple pour son nom. Cela a commencé le jour de la Pentecôte. La première église, l'église d'Éphèse, nous croyons que le messager est l'étoile de cette église, c'est Saint Paul. Il est intervenu et le chiffre en a été compté. Le deuxième âge de l'église, c'est à dire Smyrne et c'était Irénée, le grand saint de Dieu qui a conduit cet âge de l'église à la fin. Le troisième âge de l'église, c'était Pergame, et c'était Saint Colomba qui était le grand saint de Dieu. Pendant la période de l'âge des ténèbres, lors de la persécution, le quatrième âge qui est le quatrième être compté, c'était Saint Martin de Tours, le grand saint qui venait de la France. Le cinquième âge de l'Église, son messager fut Martin Luther d'après le compte à rebours. Le sixième âge était John Wesley d'après le compte à rebours. L'identification 23 janvier 1963 p. 28. Vous n'avez mis pouvez d'aucune manière produire un caractère comme cela. Acceptez seulement ce caractère en vous. Une église Néhémie peut le faire. Une dénomination Néhémie peut le faire. Une instruction Néhémie peut le faire. Cela doit être une naissance. Cela doit être une mort. Et laisser Dieu entrer. Par la grâce de Christ, modelez ce type de caractère en vous. Que vous deveniez lui. Et votre vie et la sienne, étant la même. Alors, vous êtes fils et filles de Dieu. Et quand votre vie et la sienne sont semblables, alors vous êtes manifesté comme un fils de Dieu, alors vous êtes conforme à son image, alors vous êtes prêt pour l'adoption, et c'est quand Jean 14, 12 pleinement visible dans votre vie. Maintenant, cela veut-il dire que vous êtes politiquement correct? Non. Cela veut-il dire que vous serez toujours doux et plaisant? Non. Mais cela veut dire que vous vivrez, mourrez, nagerez, coulerez, se tenant avec Dieu et sa parole. Qu'importe si cela vous écorche la peau. Les gens ont une mauvaise compréhension de ce qu'est la vie du Saint-Esprit. Ils pensent que vous devez être doux à tout moment, et que vous devez seulement marcher avec la foule, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit manifesté en Jésus, comme un homme, qui avait en lui, la rage, quand il vit les gens utilisant le temple pour y vendre leurs marchandises, vendant au temple, a tressé une corde, et il les a fouettés. Le Saint-Esprit dans l'apôtre Jean appelait Marcus, pour ce qu'il était et lui parla juste en face de sa mauvaise gestion de la parole. Le Saint-Esprit en Martin de Tours, brûla les bosquets quand les gens adoraient Satan. Le Saint-Esprit en Martin Luther, s'est moqué du pape et de sa fausse doctrine, et l'a battu sur la parole et a résisté face aux attaques sauvages contre sa vie, mais l'a relevé le défi. Le Saint-Esprit sur Shadrach, Meshach et Abednego a relevé le défi des lois du roi. Le Saint-Esprit dans Élie, s'est moqué des 400 prophètes de Baal et fit descendre le feu sur les soldats, qui vinrent le tuer. Le Saint-Esprit en Paul, réprima Pierre devant tous, Néhémie se souciant pas de ce que les gens penseraient de lui. Le Saint-Esprit en Moïse, a appelé les vagues, à descendre et à nettoyer toute l'armée de l'Égypte. Le Saint-Esprit sur Samson, a tué 10 000 soldats avec une telle puissance et sauvagerie, qu'une mâchoire desséchée et cassante d'un mulet transperça les casques de cuivre de l'ennemi et tua 10 000 d'entre eux. Ainsi, le Saint-Esprit n'est pas passif à toute chose, mais à la parole de Dieu. Et il n'est pas timide devant tout, excepté à la volonté de Dieu. Mais quand il est appelé à agir, le Saint-Esprit dans les hommes, se montre un guerrier impitoyable. Un puissant conquérant. Pourtant, Le Saint-Esprit, quand il en vient en lui-même, a montré l'esprit d'un agneau et d'une colombe. Dans Corinthiens 13, l'apôtre Paul dit ce qui suit au sujet du Saint-Esprit dans votre vie. Le Saint-Esprit n'abandonne jamais, le Saint-Esprit se soucie plus des autres que de soi-même. Le Saint-Esprit Néhémie veut pas de ce qu'il n'a pas. Le Saint-Esprit Néhémie se pavane pas. Le Saint-Esprit n'a pas une tête gonflée. Le Saint-Esprit n'estère pas dictateur. Le Saint-Esprit n'estère pas d'abord moi. Le Saint-Esprit Néhémie s'envole pas d'une poignée. Le Saint-Esprit Néhémie garde pas le péché des autres. Le Saint-Esprit Néhémie révèle pas les erreurs celles des autres. Le Saint-Esprit prend plaisir dans la prospérité de la vérité. Le Saint-Esprit met chaque chose en ordre. Le Saint-Esprit espère en Dieu toujours. Le Saint-Esprit cherche toujours le meilleur. Et le Saint-Esprit Néhémie regarde jamais en arrière, mais le Saint-Esprit persévère jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit Néhémie meurt jamais. Maintenant, en revenant à ce que frère Branham dit du modèle dans chaque âge, il dit, nous voyons le modèle dans chaque âge, comme nous pouvons aussi le lire, dans le livre des âges de l'Église au chapitre 4, l'âge de l'Église de Smyrne p. 140, nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de Néhémie dire que ce que le messager a dit. Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu'il Néhémie dise que ce qu'il avait dit. I Corinthiens 14.37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce vous seul qu'elle est parvenue? Ils ajoutent par-ci, ou ils retranchent par-là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur, et le réveil s'éteint. Comme nous devons faire attention à n'écouter qu'une seule voix. Car l'Esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant que même lui, Paul, Néhémie pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Oh! Comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, puis de dire ce qu'il leur a été donné à dire aux églises. Nous voyons, l'apôtre Paul déclarait la même chose dans 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et cette descente de la vérité divine à travers la formation des disciples ou des mentors est si important que l'apôtre Paul nous dit, que connaître la personne qui vous enseigne est très importante. 2 Timothée 3:13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal acquis, égarant les autres et égarent eux-mêmes. 14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ainsi, c'est le modèle dans chaque âge pour le véritable quintuple ministère. Ils ne viennent pas avec leurs propres pensées, ils viennent proclamant ce que le prophète messager de leur âge a proclamé, et ils ramènent cela dans les Écritures à chaque fois. Nous voyons bien loin en arrière, comment Michée, le prophète dit ce qu'Élisée, le prophète dit, Néhémie déviant pas de ce qu'il avait dit en un seul instant. Et c'est le véritable test pour chacun de quintuple ministère. Il viendra sur scène, ayant été enseigné par celui qui a été fidèlement enseigné. C'est le modèle de chaque âge. Maintenant, j'aimerais décortiquer ce que Paul dit dans le livre des âges de l'Église au sujet du modèle. 1. Il a dit la lumière de l'évangile dans chaque âge. Vient un message donné par Dieu pour cet âge. C'est le principal qui doit être fixé dans nos esprits, si nous devons comprendre. 2. À partir de ce messager, cette même lumière, ce même évangile est répandu à travers le ministère d'autres. 3. Ces autres sont des hommes qui ont été fidèlement enseignés. Ainsi, Dieu dit dans Amos, au chapitre 3, que quand Dieu veut faire connaître ses plans, il enverra premièrement un prophète. Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel, n'aimait fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ainsi, nous voyons que Dieu a fait la promesse à l'homme, qu'avant qu'il n'ait fasse quoi que ce soit, il enverra un prophète aux gens. Dieu révélera ce secret au prophète, et ensuite ce prophète proclamera ce que Dieu lui aura instruit de dire. Mais Dieu n'aimait s'Esther pas arrêté là et son prophète Amos, non plus. Ainsi, nous voyons ensuite qu'Amos ajoute en disant, 8. Le lion rugit, qui Néhémie sera effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui Néhémie prophétiserait? Ainsi, nous voyons que quand Dieu rugit son message comme un lion, il est impossible pour le prophète de Néhémie pas dire ce que Dieu lui a dit de dire. Maintenant, à partir de ceci, nous voyons dans Amos 3, 7. Que Dieu Néhémie fera jamais quoi que ce soit, jusqu'à ce que Néhémie révèle premièrement ce qu'il va faire, à travers un prophète de son choix. Et ainsi, il nous a été dit que quand Dieu parle à ce prophète et lui révèle son plan, il est impossible pour ce prophète de manquer de dire, comme les gens sont effrayés, quand ils entendent la voix des lions rugir. Frère Branham dit dans sa prédication, la manière d'un vrai prophète 19 janvier 1963 p. 96. La Bible dit, quand Dieu, quand un lion rugit, qui Néhémie sera effrayé, et quand Dieu parle, comment manquerons-nous de prophétiser? Comment nous en empêcherions-nous? Quand Dieu parle, le prophète proclame à grand cri la parole parlée. Et si c'était à la parole de Dieu? 247 Le lion rugit, les coléoptères et tous se taisent, parce qu'ils ont peur. Leur roi parle. Ils ont assez de bon sens, de courage, de sens d'honneur pour honorer leur roi quand il parle. 248 De même, Dieu parle par sa parole. Alors, que toute créature de sa création prenne garde. Il parle en ses derniers jours. Il proclame sa parole. Et que chaque créature de son royaume prenne garde à ce qu'il dit. Arrêtez-vous. Faites l'inventaire. Il rugit maintenant. Il rugit par sa parole confirmée. Il se fait connaître. Quand il rugit dans ses derniers jours, faisons attention et sachons que quelque chose est sur le point d'arriver, sachant que Dieu n'aimait fait jamais cela sans avoir d'abord rugi. Quand il rugit, alors quelque chose suit ce rugissement, oui, car, en ce moment-là, il s'avance. 249 Il a dit, le lion rugit-il donc sans cause? Le lion pousse-t-il des cris du fond de sa tanière, sans avoir fait une capture? Voyez, 250 Dieu a une raison de rugir, il sait que le jugement est proche. Ainsi, nous voyons que Dieu a promis d'envoyer un prophète, quand il veut faire quelque chose. Mais Néhémie s'arrête pas là. Frère Branham dit que la lumière vient à un homme, un prophète dans une certaine région, et ensuite, à partir de ce prophète, cette même parole, cette même lumière se répandra par le ministère d'autres, et ceci, doivent être des hommes qui ont été fidèlement enseignés. Ensuite, frère Branham nous avertit, Mais Esther évite que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de Néhémie dire que ce que le messager a dit. Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens, pour qu'il Néhémie dise que ce qu'il avait dit. I Corinthiens 14.37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce vous seul qu'elle est parvenue? Ils ajoutent par-ci, ou ils retranchent par-là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur, et le réveil s'éteint. Comme nous devons faire attention à n'écouter qu'une seule voix. Car l'Esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant que même lui, Paul, Néhémie pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Oh! Comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, puis de dire ce qu'il leur a été donné à dire aux églises. Dans 2 Pierre 2, 1, nous lisons « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a achetés, attireront sur eux une ruine soudaine. De plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vos moyens de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine Néhémie sommeille point. Nous le voyons dans ce même genre des personnes, qui viennent fêter avec vous, autour de la parole de Dieu, les mêmes qui ont apporté la véritable doctrine tout au long. Des hérésies qualifiées de destructives. Et quelle est cette doctrine? Qui, Malachi enseigné, apporte la destruction, la divinité, comme nous l'avons vu dans Deutéronome, Malachi acte aussi bien dans diverses écritures. Ensuite dans 2 Pierre 2, 1, il nous est dit que ces hommes, par leur doctrine destructive, renient même le Seigneur qui les a rachetés. Et nous savons que Jésus était le prix payé, mais il n'est pas celui qui nous a achetés. Le Père nous a achetés en utilisant le sang de son Fils unique engendré, comme le prix du paiement de notre péché. Jésus était le prix d'achat, mais Dieu est la personne qui a payé la dette. Et c'est lui, le Seigneur qui est rejeté, apportant ainsi la destruction comme Dieu l'a promis. Maintenant, j'espère qu'à travers ceci vous pouvez comprendre l'importance de comprendre et d'adorer Dieu correctement. Malachi dit, le but de la venue d'Élie était de prévenir la destruction pour tous. Ainsi, il y aura un groupe qui écoutera le message du seul Dieu et qui a un fils. Tous les autres recevront notre doctrine qui apporteront la destruction, incluant l'adoration fausse d'un saint homme et d'une sainte église. Jésus nous dit dans Matthieu 6, 24. Nul Néhémie peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous Néhémie pouvez servir Dieu et Mammon. Il a dit que vous Néhémie pouvez pas le faire. Soit c'est Dieu qui vous a appelé, soit c'est l'homme qui vous a appelé. Vous Néhémie pouvez pas servir les deux. Maintenant, cela Néhémie veut pas dire que vous Néhémie pouvez pas avoir un travail, car Moïse l'a fait, et Paul, et William Branham, jusqu'au moment où lui, comme Moïse devait tellement se trouver sur la route, qu'il Néhémie pouvait plus garder un travail. Mais ce qu'il dit ici, est que vous Néhémie pouvez pas être correct envers Dieu et en même temps, vous accorder avec l'homme. Cela Néhémie se mélange pas. Soit vous resterez fidèle envers Dieu, soit vous vous dirigerez vers les organisations. Regardez, j'aimerais avoir une église pleine des gens qui de tout leur cœur veulent servir Dieu, mais il n'y a pas tellement des gens qui voudraient le faire. Même pas dans ce message. Ils compromettent un peu ici, un peu là-bas. Et les gens commencent à inonder vos portes. Je connais des églises où vous, Néhémie, pourrez même pas être un diacre. Jusqu'à ce que vous, Néhémie, soyez divorcé et remarié. Ce qui estère totalement de l'apostasie. Au regard de ce que dit l'Écriture. Mais ils s'en fichent. Les prédicateurs sont divorcés et remariés. Et amènent les gens dans leurs églises à divorcer de leurs épouses. Qui Néhémie voit pas comme le pasteur. Un tel blasphème contre la parole de Dieu et sa justice et sa sainteté. Dans une église que je connais, la condition pour être diacre, c'est-à-dire que vous devez avoir deux ou trois femmes avant d'être diacre. Et pourtant, l'église est remplie d'un mur à un autre. Pourquoi? L'organisation, c'est-à-dire cela la raison. Vous, Néhémie, pouvez pas plaire à l'homme et plaire à Dieu au même moment. Vous devez accepter de marcher seul ou alors Dieu, Néhémie, marchera pas avec vous. Allez dire P. 66. Je crains l'échec. En toute chose, je crains de causer l'opprobre. Je crains toujours cela. Je veille, pensant que je dirai la mauvaise chose. En effet, j'ai tiré un avertissement de la Bible. Moïse avait reçu une grande autorité, mais il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Je me souviens d'Élie. Comme il était chauve, ses petits-enfants le taquinaient. Parce qu'il était chauve, il a prononcé une malédiction sur ses enfants, et 42 d'entre eux ont été tués par des ours. Voyez-vous? Eh bien, ce n'était pas le Saint-Esprit, mais c'était le prophète en colère. Et j'ai parlé de toutes ces choses, pour en venir à cela. Et je suis passé à travers toutes ces choses, arrivant à ceci. Et il s'est tenu là, me parlant. Et il a dit, mais tu marches avec beaucoup. Il a dit, pour marcher avec moi, tu dois marcher seul. De même que j'ai été avec Moïse 11 septembre 1960, p. 76. Et je suis prêt à aller au Jourdain ce matin. Je suis prêt à faire face à ma commission. J'ai aimé les gens. Je me suis plié à leurs désirs. Il m'a visité vision après vision, que je n'ai pas le temps de raconter, et vous le savez. Sester écrit ici même au dos de ses livres, il Esther dit, tu t'es aïtropié au désir des gens. Pour marcher avec moi, tu marcheras seul. Tu mets trop l'accent sur ces signes. Et je suis prêt à aller au Jourdain ce matin. Je suis prêt à faire face à ma commission. J'ai aimé les gens. Je me suis plié à leurs désirs. Il m'a visité vision après vision, que je n'ai pas le temps de raconter, et vous le savez. Esther écrit ici même au dos de ses livres. Il Esther dit, tu t'es aïtropié au désir des gens. Pour marcher avec moi, tu marcheras seul. Tu mets trop l'accent sur ces signes. 201 Je n'ai pas su ce qu'il en était du reste, mais le reste est revenu. Le reste est revenu où j'ai vu sa main descendre vers Josué, disant, j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Je le crois ce matin. Dorénavant, à partir de ce jour, je sers Dieu dans ma commission. S'il veut me montrer des signes ou s'il veut me montrer des visions, il peut me les montrer. Si Néhémie le veut pas, plus jamais je Néhémie me tiendrai devant les gens, essayant de laisser leur foi tirer quelque chose hors de moi, plus jamais. Je prierai pour les malades et les remettrai entre les mains de Dieu et les laisserai partir. S'il croit la commission, Dieu Esther tout aussi fidèle. Il m'a conduit jusqu'ici, juste comme il a conduit Moïse, juste comme il a conduit Josué, Il en a donc été de même. Entendre, reconnaître et agir selon la parole de Dieu. P. 15. Oh là là. Des fois, cela signifie marcher seul. Mais si vous êtes vraiment sincère, et que vous receviez réellement le droit d'aînesse, ça vous est égal de marcher seul. Si les voisins ennemis vous invitent plus au dîner, si personne n'ennemi veut rien avoir à faire avec vous, qu'est-ce que cela vous fait? Tant que vous avez le droit d'aînesse, c'est la plus importante réalisation de votre vie. Aussi longtemps que je suis né du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela change? Aussi longtemps que je suis en route pour le ciel, qu'est-ce que cela change? Ce que les gens disent, aussi longtemps que nous marchons dans l'Esprit, et tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils marchent toujours dans la belle lumière de la sainteté et de la pureté. Mais eux ont eu ce droit d'aînesse. Il était charnel comme le monde, cela n'avait donc pas d'importance pour lui. Il pensait être religieux. Son père et sa maman étaient religieux, et cela suffisait pour lui. Le puissant conquérant 1er avril 1956 p. 39. Et pendant qu'il était seul, les portes fermées, le monde dehors, il a pris du pain et il l'a rompu, exactement comme il le faisait, ils ont reconnu que ça devait être lui. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils lui avaient parlé toute la journée. Ils avaient communié. Ils l'avaient entendu prêcher le long de la route, durant le parcours, sous la chaleur de la journée, mais une fois seul, il se fit connaître à eux, et leurs yeux s'ouvrirent. Oh! Si seulement il peut amener ce groupe de gens en cette heure-ci, si seulement il peut vous amener seul à un endroit où vous ne m'y verrez pas. Vous dites, je suis assis à côté d'un méthodiste ce matin, alors que moi, je suis baptiste. Voyez, vous ne devriez pas faire cela. Vous devriez enfermer le monde dehors. Enfermer les autres dehors. Vous devez marcher seul avec Christ. Si jamais il vous a, vous seul, alors vos yeux s'ouvrent. Vous dites, eh bien, c'était lui tout le temps. Alors, il fera ici ce matin quelque chose tel qu'il le faisait d'habitude, tel qu'il le fait aujourd'hui, car il doit faire aujourd'hui la même chose qu'il faisait autrefois, agir sur base des mêmes principes. Sinon il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il avait mal agi quand il avait agi là-bas. Si Christ dans le livre des âges de l'Église chapitre 3, 89-1, âge de l'Église d'Éphèse, ce cycle de réveil et de mort n'a jamais cessé. Il suffit de vous rappeler cette dernière époque où Dieu agissait dans l'esprit, quand les hommes et les femmes s'habillaient comme des chrétiens, qu'ils allaient à l'église, qu'ils priaient toute la nuit, qu'ils allaient au coin de la rue et qu'ils n'avaient pas honte des manifestations de l'esprit. Ils quittaient leurs vieilles églises mortes, et ils faisaient le culte dans des maisons ou de vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. Mais avant longtemps, ils ont eu assez d'argent pour construire de nouvelles églises, toutes belles. Ils ont mis une chorale, au lieu de chanter eux-mêmes pour Dieu. Ils ont donné des uniformes à la chorale. Ils ont organisé ce mouvement. Des hommes en ont pris la direction. Ils ont au fait de se mettre à lire des livres qu'on ne devrait pas lire. Ils ont levé les barrières, et des boucs sont venus prendre la relève. Leur joie avait disparu. La liberté de l'esprit était partie. Oh! Ils ont bien entretenu une forme, mais le feu s'était éteint, et il n'y reste pas grand-chose d'autre que des cendres noircies. 89-2 Il y a quelques instants, j'ai dit que j'en comprenais ce que c'était que d'aimer Dieu. Ce grand apôtre de l'amour allait certainement le remarquer, si l'Église commençait à perdre ce premier amour pour Dieu. dans Jean 5.3. Il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, sa parole. Le moindre écart par rapport à cette parole était un pas qui éloigne de Christ. Les gens disent qu'ils aiment Dieu. Ils vont à l'église. Ils crient même. Ils se réjouissent. Ils chantent et ils se sentent bien dans les émotions. Mais une fois tout cela terminé, observez pour voir s'ils sont dans la parole. S'ils marchent selon la parole. S'ils la vivent. S'ils font tout le reste. Et qu'ils n'y marchent pas selon cette parole. Alors ils peuvent bien dire qu'ils aiment Dieu. Mais leur vie dit autre chose. Je redemande si Jean n'a pas vu beaucoup de cela avant de mourir. Des gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n'obéissaient pas à sa parole. Oh, Église d'Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. Quelqu'un essaie d'ajouter à cette parole ou d'en enlever quelque chose. Seulement, ils le font de façon si subtile que vous n'y voyez rien. Ils n'ont pas fait cela en grand, pour que vous puissiez le voir se produire ouvertement. C'est-à-dire caché. Ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension humaine, et cela s'emparera de vous si vous n'aimez mais le refusez pas. Retournez à la Pentecôte avant qu'il n'ait mis soit trop tard. Mais comme d'habitude, les gens n'aient mis prêtent pas attention à l'avertissement de Dieu. Ce feu du réveil nourri de la parole sacrée Esther si merveilleux, et la manifestation de l'esprit Esther si bénie qu'une petite crainte se glisse dans le cœur et chuchote, comment ferons-nous pour protéger cette vérité que nous avons? Que pouvons-nous faire pour voir à ce que ce réveil continue? C'est Esther là que l'esprit antichrist entre et chuchote, écoutez, vous avez la vérité maintenant, voyez donc à ce qu'elle n'ait mis se perde pas. Faites une organisation et établissez comme credo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans un manuel d'église. Et ils le font. Ils font une organisation. Ils ajoutent à la parole. Et ils meurent. Tout comme Esther morte pour avoir pris une seule parole de travers. C'est Esther la parole de Dieu qui donne la vie. Et ce qui compte, ce n'est pas ce que nous, nous disons de la parole. Mais c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, revenons à notre parabole. Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. 1.5 Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Église, n'oubliez jamais ces paroles. Car tout ce qui est d'un grand estime pour les hommes, est une abomination aux yeux ou dans la présence de Dieu. Prions.